Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons vu la dernière fois la chute d'Adam et Ève. Dieu ne va pas abandonner Adam et Ève, ni toute l'humanité. Au contraire, c'est très beau d'ailleurs, la Genèse raconte qu'il vient rendre visite à Adam et Ève, et que, tout en exerçant sa sévérité, il leur parle avec beaucoup de miséricorde et de bonté. Il se tourne d'abord vers le démon pour proférer la punition. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Tu la mordra au talon et elle t'écrasera la tête. La femme, c'est la très sainte Vierge, tous les pères de l'Église l'ont toujours compris comme cela, l'Église l'a toujours compris comme cela, et vous savez que l'enseignement traditionnel de l'Église est l'interprétation authentique de l'Écriture sainte, je vous en ai déjà parlé. La descendance de la très sainte Vierge, c'est Jésus. Mais à la suite de Jésus, tous les fils de Marie, tous les frères de Jésus, c'est-à-dire tous les chrétiens fidèles. Ce qui fait que désormais, le monde se répartit en deux camps. Ce sont les deux cités dont parle saint Augustin. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fait la cité de Dieu. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité du diable. Les mauvais anges ne peuvent rien sur Dieu, ils ne peuvent rien non plus sur les bons anges, et ce sont les hommes qui deviennent l'enjeu de la lutte. Cette lutte est beaucoup plus dramatique que ce qu'on veut bien admettre d'habitude. Saint Augustin en a parlé, tous les auteurs spirituels en parlent, Saint Louis-Marie Grillon de Montfort nous recommande la consécration à la très sainte Vierge justement à cause du caractère dramatique de cette lutte. Tout l'Ancien Testament, nous verrons cela dans d'autres sermons, tout l'Ancien Testament est le récit de cette lutte jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après ça, on peut dire que toute l'histoire de l'Église et toute la vie des saints est le récit d'une lutte à mort, on peut dire, à mort, entre Dieu et le démon, entre le démon et Dieu, et dont l'objet sont les hommes. L'objet de cette lutte, c'est de vaincre, c'est-à-dire de faire la preuve de son amitié avec Dieu. Une amitié pas seulement théorique, mais pratique également, par la foi dans les épreuves. Je vous ferai un sermon spécialement sur la nécessité de l'épreuve pour l'homme. Le Concile de Trente, je vous l'ai dit, a un très beau et long chapitre sur ce sujet, mais également vous avez saint Ignace de Loyola dans ses exercices spirituels qui parle dans ses règles du discernement, qui parle justement de cette lutte et du moyen de vivre dans le camp de Dieu et d'échapper à l'hypocrisie, aux manœuvres dolosives du démon, des manœuvres terribles, subtiles et fortes. Quels sont les acteurs de cette lutte? Tout d'abord, vous avez Dieu et ses amis, les bons anges, les disciples, principalement les saints, mais également tous les chrétiens qui vivent en état de grâce, qui se sont mis dans le camp de Dieu et qui luttent avec lui, qui luttent pour lui contre le démon. De l'autre côté, vous avez les démons à qui Dieu a donné l'air et la terre pour domaine afin qu'ils éprouvent les hommes. Nous comprendrons mieux lorsque nous verrons la nature de la tentation et de l'épreuve. Et saint Thomas, lorsqu'il étudie la chute des anges, dit que Dieu leur a donné l'air et la terre, l'atmosphère et donc la terre pour domaine, afin qu'ils ne soient pas privés de quelque utilité, qu'ils aient leur place dans le plan de Dieu, voyez, qu'ils aient leur place, parce que toute chose a sa place dans le plan de Dieu. Et les démons ont leur place, non pas évidemment que Dieu leur a donné l'autorisation de faire tomber les hommes, non, mais Dieu leur a demandé de lutter contre les hommes pour que les hommes fassent ainsi la preuve de leur fidélité à Dieu. Saint Paul en parle également lorsqu'il compare la vie chrétienne à l'arène. Les combattants s'entraînent, ils luttent. Pourquoi les combattants luttent-ils? Justement, alors vous avez deux types de luttes. Vous avez la lutte avec des amis pour s'entraîner, et puis vous avez la lutte contre des ennemis, et que le bon Dieu permet pour que nous fassions nos preuves de notre fidélité. Et le troisième acteur de cette lutte, c'est l'homme lui-même, hein, qui n'est pas seulement l'enjeu, qui est aussi acteur. Parce que je vous ai dit, les amis de Dieu se rangent du côté de Dieu et luttent avec lui, mais les autres sont les amis du démon. Et il y a un esclavage du démon. Grignon de Montfort, Saint Louis Grignon de Montfort est très net sur ce point. C'est soit l'esclavage, qui est un esclavage d'amour envers le bon Dieu, soit l'esclavage du démon. Saint Thomas d'Aquin en parle plusieurs fois. Il dit, comment peut-on parler d'esclavage du démon? Parce que le démon n'a pas de droit. Non, il n'a pas de droit. Mais celui qui se soumet volontairement à plus fort que lui devient l'esclave de celui auquel il se soumet. Surtout quand il reconnaît sa défaite et qu'il se soumet après sa défaite pour éviter d'être mis à mort, par exemple. On a ça dans les combats des païens autrefois. Celui qui était défait était souvent mis à mort, à moins qu'il accepte d'être l'esclave de son vainqueur. Et c'est ce que l'homme a fait. L'homme qui ne se repent pas, qui n'a pas de repentir de son péché, qui donc refuse de rentrer dans la soumission à Dieu, qu'il le veuille ou non, reconnaît ainsi sa défaite et entre dans l'esclavage du démon. Ainsi, ils deviennent des complices du démon, c'est-à-dire qu'ils vont travailler à leur propre perte et à la perte de leurs amis ou de leurs anciens amis, parce que le démon n'accepte la reddition de son esclave qu'à cette condition. Il y a un songe de Don Bosco sur l'enfer, il y en a plusieurs sur l'enfer, il y en a un particulièrement clair. Ça commence déjà par des filets que le démon a cachés sous les fleurs. Et les enfants se prennent les pieds dans le filet et puis dégringolent la pente qui aboutit à l'enfer. Mais il y en a qui essayent de se rattraper dans cette pente et les mauvais camarades leur font des croche-pieds pour mieux les faire tomber. Alors quand dans une pente vous avez un croche-pied, alors là, bout, c'est jusqu'en bas. Deuxième partie de ce serment, seul Dieu peut nous sauver. Lorsque Dieu intervient auprès d'Adam et Ève pour leur dire qu'il va les sauver, qu'il va y avoir cette lutte dramatique, cela signifie que seul Dieu peut sauver l'humanité. Seul Dieu peut ramener les hommes dans son camp. Pourquoi ? D'abord parce que tout ce qui est surnaturel dépend de Dieu. Deuxièmement, parce que l'homme, ayant été vaincu par le démon, et surtout ayant accepté sa défaite, devient incapable de lutter contre le démon. Il n'y a que Dieu qui soit plus fort que le démon. Non seulement seul Dieu peut sauver l'homme, mais seul Dieu peut le maintenir dans son camp, peut le maintenir dans la fidélité. Parce que, on le voit bien, dès le début de l'épreuve, il faut adhérer à Dieu et celui qui refuse tombe. C'est donc un choix entre Dieu et le mal. Et ce choix, il est constant. Chez l'homme, il est constant, pas chez l'ange. Une fois qu'il est fait, il est fait. Mais chez l'homme, il est constant. Et donc, il faut constamment que Dieu intervienne pour soutenir l'homme dans sa lutte. Enfin, troisième raison pour laquelle seul Dieu peut sauver, c'est que l'homme est profondément blessé et que même au niveau purement naturel, il ne peut pas être vainqueur du démon. Je ne dis pas, et l'Église enseigne, tous les actes des hommes ne sont pas des péchés. Mais même lorsqu'il fait le bien, si l'homme n'est pas avec Dieu, parce qu'il lui arrive de faire le bien, heureusement, si l'homme n'est pas avec Dieu, il reste malgré tout parqué par le démon, vous voyez, dans un parc du démon. Sa liberté est amputée du but à poursuivre. Il ne voit plus la fin. Il ne cherche plus Dieu. Il fait du bien. Certes, il fait du bien parce que le bien plaît à l'homme, mais il ne cherche plus Dieu. Et donc, la grâce est à la fois une grâce salutaire, mais également une grâce qui guérit. Et cela, il faut faire très attention à ne pas l'oublier. Notre nature est profondément blessée, et même du point de vue naturel, il faut l'intervention de Dieu. Quand quelqu'un est malade, les médicaments peuvent suffire. Mais quand il s'agit de la blessure du péché originel qui fut un péché radical, il n'y a que Dieu qui peut soigner, pas seulement rendre la vie, mais soigner la blessure. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que une des grandes erreurs modernes, c'est ce qu'on appelle le naturalisme, c'est-à-dire de laisser tomber Dieu en pensant que la nature peut malgré tout arriver à sa perfection par elle-même. Ce n'est ni plus ni moins, vous vous en rendez bien compte, mes bien chers frères, que la poursuite de la révolte initiale, se passer de Dieu. Je vous ai dit la dernière fois, je vous ai fait la comparaison avec les adolescents. Et bien là, c'est la même chose. Le naturalisme s'est épanoui au XVIIIe siècle parce que les faux philosophes, parce que Voltaire, Rousseau et compagnie, ce ne sont pas des philosophes, même Kant, hein, ce n'est pas un philosophe. C'est des gens qui se prétendent philosophes. Ces gens-là ont tellement bien enveloppé leur affaire, entourloupé le monde, qu'ils ont fait passer cette erreur, qui n'est pas une erreur, qui est un mensonge. Ils ont fait passer ce mensonge pour de la sagesse. Ils ont fait, premièrement, oublier le salut éternel. Il reste donc plus que l'homme tout seul, la nature humaine. Et là, ils prétendent que, dans ce domaine, l'homme est assez fort pour parvenir à sa perfection. Et c'est l'orgueil moderne. Or, il faut faire très attention, parce que ce naturalisme, je reviendrai, je développerai tout cela, pour l'instant je suis la progression historique du drame de l'humanité, j'en profite pour donner les éclairages qui nous font voir l'histoire pas seulement comme une succession de faits, mais dans le plan de Dieu. Et puis, il est évident que toutes ces doctrines, nous les développerons, nous entrerons dans les détails pour que vous soyez bien conscients et aptes à résister. Il y a donc d'autres erreurs que le naturalisme, nous verrons tout cela. Et une fausse philosophie que nous verrons également. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le naturalisme a pénétré même chez les chrétiens, et j'allais dire même chez les bons chrétiens. Et peut-être même chez nous, mes bien chers frères. Qu'est-ce qui révèle le naturalisme chez des chrétiens? D'abord, par exemple, la préoccupation des souffrances d'ici-bas. Alors que un bon chrétien sait qu'il doit souffrir, nous nous cherchons à ne pas souffrir. Et cela, c'est la fuite de la croix. La fuite de la croix, quand elle devient habituelle, est un signe du naturalisme. Même si nous prétendons être avec Dieu, même si nous faisons profession d'être avec Jésus-Christ, celui qui ne souhaite pas, qui ne cherche pas à porter la croix avec Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ, celui-ci, en réalité, est quelqu'un qui se détourne, même s'il ne veut pas l'admettre, et qui veut faire son salut par ses propres forces. La croix est un remède, celui qui refuse le remède, ce n'est pas vrai qu'il veut sortir de l'esclavage du démon. Un autre signe, c'est le faible désir du ciel. Je ne parle pas au moment de la mort, les bons chrétiens savent que de toute façon maintenant les jeux sont faits. Je parle ici-bas. Travailler ici-bas pour la gloire du ciel. Un autre signe, c'est de ne pas travailler au règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment cela se voit-il en pratique? Vous avez par exemple tous ceux qui font de la politique non chrétienne. Il fleurit en ce moment avec le Covid, les confinements, le vaccin, le mondialisme. Il fleurit un nombre incalculable d'analyses ou de prétendues analyses, de conseils ou de prétendus conseils pour s'en sortir sans faire recours à Dieu. Dans un drame comme celui-ci, puisque ça nous dépasse, tout le monde le voit, ça nous dépasse. Le moyen, le premier moyen, c'est la prière. Ensuite, la prière nourrit la foi. Or, notre victoire sur le monde, c'est notre foi, dit saint Jean. Il ne dit pas « la foi contribue », n'est-ce pas? Il dit « il n'y a pas d'autre victoire sur le monde que la foi ». Et ceux qui ne sont pas d'accord avec cela, et même ceux qui sont surpris par cela, font la preuve qu'ils sont plus ou moins atteints par le naturalisme. Vous avez également la politique faussement chrétienne. Un autre signe du naturalisme chez nous, mes bien chers frères, l'adage selon lequel il faut commencer par la nature. Un prêtre, un ami prêtre me l'a dit ça. Il faut d'abord lutter contre l'avortement, parce que ça c'est la nature, après ça on passera aux choses surnaturelles. Mais non ! L'avortement est la conséquence de l'esclavage du démon. Il faut d'abord sortir de l'esclavage du démon, et quand on est sorti de cet esclavage, on peut à ce moment-là résoudre, et ça se résout très facilement, les problèmes naturels, y compris le problème des meurtres. Beaucoup disent il faut commencer par ce qui est possible. Sous-entendu, la foi viendra après, c'est trop compliqué pour nos contemporains. C'est faux. C'est faux. Dieu est à la portée de nos contemporains. Ce qui est compliqué, c'est de lutter sans armes. Ce qui est compliqué, c'est de lutter à main nue, et encore pire, de lutter quand on est blessé contre le démon. Je vous invite, et c'est pour ça, mes bien chers frères, que j'ai fait ce sermon le jour de la Pentecôte. En préparant ce sermon, je me suis dit quand même, il faut que je leur parle du Saint-Esprit, il faut quand même que je fasse un sermon qui soit à la hauteur de cette grande fête. Je veux tout de même pas encore leur parler du démon et tout cela. Eh bien si, vous voyez, parce que c'est le caractère surnaturel de notre vie que nous devons demander au Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous avons les dons du Saint-Esprit, parce que même les vertus, le bon Dieu a estimé qu'elles ne seraient peut-être pas suffisantes et qu'il fallait être encore plus fort, des moyens encore plus forts. Et ces moyens plus forts, ce sont les dons du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en personne qui lutte en nous. Alors ce qu'il faut faire, priez, mes bien chers frères, demandez le Saint-Esprit, désirez le ciel. Ici-bas, nous sommes de passage. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer les corps mais ne peuvent pas tuer l'âme. Tout cela dans l'Évangile. Toute cette série de sermons que je vous fais, ce ne sont que des répétitions de l'Évangile auxquelles nous ne prêtons pas assez souvent attention. Demandez au Saint-Esprit de vous faire aimer la croix. Demandez à la Sainte Vierge de vous faire aimer la croix. Consacrez-vous à elle. À bientôt. Bon courage. Nous sommes en union de prière. Courage, petit troupeau, dit notre Seigneur. J'ai vaincu le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.